n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
On a invité Vincent Roche-Leca, directeur du théâtre de Bourg-en-Bresse. Il nous parle de la deuxième partie de la saison.
Reportage à la découverte de la Montagne Magique, un ancien sanatorium qui abrite maintenant une fondation et des ateliers d'artistes à Hauteville.
Et votre actu en bref, c'est tout de suite.
Bourg en bref.
Il y a un an, c'était le début de la guerre en Ukraine.
L'invasion russe en Ukraine a commencé le 24 février. Il y a un an, nous avions rencontré Oksana, une jeune Ukrainienne qui étudie en Espagne. Elle était partie donner des vivres à la frontière ukrainienne pour aider son frère qui partait combattre. Son camion était malheureusement tombé en panne dans l'Ain. On réécoute un extrait de notre rencontre avec elle. Tu penses quoi de cette guerre ?
Esta guerra no tiene ningún sentido, solamente mueren miles de personas. Y el Putin debería, bueno...
Cette guerre n'a vraiment aucun sens. Vraiment, Poutine, cette personne, je ne comprends pas ce qu'elle veut. En tout cas, le peuple ukrainien, le peuple russe, ça ne l'intéresse pas. Même les civils, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le territoire. Mais même comme ça, ça n'a pas de sens.
Aujourd'hui, la famille d'Oksana est rassemblée en Espagne, même si la guerre continue dans leur pays. Et même s'il est difficile de dénombrer le nombre de victimes, il y aurait des centaines de milliers de morts et de blessés chez les militaires. La semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations unies, l'ONU, a appelé pour la quatrième fois au retrait des troupes russes en Ukraine. Le texte voté par 143 pays sur 193 reste cependant non contraignant.
On manque d'eau en France et jusque dans la Dombe.
2022, c'est l'année la plus chaude qu'on ait connue depuis qu'il existe des observations météorologiques. Le déficit moyen de précipitations est de 22% dans l'Ain, et depuis le printemps dernier, les nappes de la Dombe ne sont toujours pas à leur niveau de référence. La préfecture de l'Ain place le nord de la Dombe en alerte sécheresse et le sud en alerte renforcée. Elle appelle les particuliers, entreprises et collectivités de la Dombe à économiser l'eau et à anticiper les besoins pour cet été. Parmi les gestes simples pour les citoyens, réutiliser l'eau du lavage des légumes, privilégier les douches ou installer des équipements sanitaires économes en eau.
Versement de l'aide carburant, 50 000 foyers indinois peuvent encore la demander.
Elle a été prolongée jusqu'à fin mars. Cette aide de 100 euros a pris le relais du bouclier tarifaire sur les prix des carburants. Vous pouvez la demander si vous utilisez votre voiture personnelle pour aller au travail et si vos revenus sont modestes. Parmi les conditions, avoir déclaré des revenus en 2021 et le revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 14 700 euros. Pour obtenir le versement, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr.
Se retrouver pour échanger et débattre sur un sujet.
C'est le principe du Café Philo et ça se passe chaque premier mardi du mois au Café Chez la Jeanne. La prochaine séance est mardi 7 mars de 20h à 22h au 4 rue Victor Bache à Bourg-en-Bresse. Le thème « Le progrès peut-il nous sauver des conséquences du progrès ?» L'entrée est libre et gratuite, il faut juste consommer au moins une fois.
Le printemps des arts a commencé dans l'Ain.
C'est un événement itinérant qui amène la culture à côté de chez vous. Au programme des concerts, de la danse, du théâtre. Et le prochain rendez-vous, c'est un concert aux sonorités indiennes et afghanes le dimanche 19 mars à la salle des fêtes de Tréfort-Valrevermont. Tous les événements sont gratuits et pour plus d'informations, c'est sur le site de Grand Bourg Agglomération.
Seconde chance, un documentaire burgien.
À la réalisation, Solène Anson, burgienne, jeune journaliste et ancienne stagiaire à Radio B, son film parle de son parcours et de différentes initiatives d'éducation à l'image. Laura, en stage à la radio, l'a reçue dans nos studios.
Bonjour Solène, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Bonjour Laura, je m'appelle Solène Anson, j'ai 23 ans et je suis journaliste, pigiste pour plusieurs médias, Téléfoot sur TF1, TV5 Monde et puis France 3 en région.
Quel est le thème abordé dans votre deuxième documentaire, Seconde Chance.
En fait, ça raconte un peu l'histoire de moi, Solène Hanson, jeune fille qui rêve de devenir journaliste. À travers d'autres jeunes, je m'identifie, notamment des collégiens. Donc, au collège Georges Brassens à Dessines-Charpieu, qui vont réaliser un film et qui vont découvrir beaucoup de choses. Notamment, ça va leur permettre d'exprimer les émotions qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et justement, ce genre d'atelier, donc là, on est plutôt dans le cinéma, donc dans la réalisation de films. Ça permet à ces jeunes de se défendre et de se forger un caractère. Et enfin, je me suis intéressée à un atelier journaliste reporter d'image à Aubervilliers, où c'est des jeunes en fait, qui souhaitent devenir journalistes, ou pas forcément, et qui apprennent à réaliser un reportage, on appelle ça le mojo journalisme. Donc c'est en fait réaliser un reportage avec son téléphone portable. Et enfin, je me suis intéressée au parcours de Cécile Gray, qui n'est pas forcément passée par une école de journalisme, mais qui a réussi à devenir journaliste sans passer par une école. Et moi, c'est un peu pareil. Je suis devenue journaliste sans forcément passer par une école de journalisme.
Le documentaire Seconde Chance sera projeté au Zoom, 3 rue de la Citadelle à Bourg-en-Bresse, et ce sera ce jeudi 2 mars à 19h. L'entrée est gratuite.
L'invité de Radio B.
Vincent Roche-Léca, bonjour.
Bonjour.
Les 2 et 3 mars, vous présenterez à la scène nationale de Bourg-en-Bresse sa programmation d'avril à décembre. Vous en êtes son directeur. Alors avant de découvrir ce que vous nous réservez pour les mois à venir, on va parler de climat. La France vit en ce moment une sécheresse hivernale exceptionnelle. Alors le théâtre, lieu de création, de représentation et de débat. On peut parler par exemple de la soirée Regard sur le vivant avec pour thème jeunes et climat à la salle Jean Villard ce mardi 28 février. Alors quel est le principe ?
Donc ces soirées sont des soirées de débat, de rencontres, où on essaye de faire se confronter plusieurs paroles fortes, spécialistes ou non, sur un sujet. Par exemple, la dernière, toujours dans notre cycle autour du vivant, a fait se confronter les regards autour de la trace du vivant d'un chasseur, d'une artiste et d'un ornithologue. Et cette fois-ci, on a réuni plusieurs jeunes mobilisés localement, de manière associative, autour des marches pour le climat, mais également qui mènent toute une série d'initiatives de sensibilisation autour de, encore une fois, de notre relation au vivant.
Et en quoi donc le théâtre peut jouer un rôle autour de ces thématiques, donc par exemple le climat ?
Alors c'est un parti pris qui a été le nôtre l'année dernière. Et partagé et validé par les partenaires publics, de se redire qu'un théâtre, notamment au sortir d'une pandémie qui a bougé beaucoup de logiciels et de pensées, de se dire que nous n'étions vraiment pas qu'un garage à spectacle, qu'un lieu qui hébergeait du divertissement, même si évidemment on le fait avec beaucoup de plaisir, et qu'on pouvait être un lieu de partage de réflexion, un lieu pour nourrir la pensée, et redevenir, même si cela peut paraître un petit peu immodeste de le dire, un théâtre agora comme ça l'a été parmi plusieurs époques.
Alors avant de parler de cette nouvelle saison, on va parler donc de cette première partie de saison plurielle lancée en septembre dernier. Un retour sur les mois écoulés ?
Alors c'est un projet un petit peu expérimental qui est très peu courant en France, qu'on a tenté expérimenter, encore une fois en accord avec tous nos partenaires, qui était de découper désormais les années scolaires en période thématique de 4 mois, en proposant des spectacles certes, mais aussi avec la complicité d'artistes, d'imaginer d'autres rendez-vous, des expositions, des soirées et des conférences, des travaux participatifs avec les publics où chacun peut s'exprimer. L'ambition, c'est sur des mots un petit peu valises, des thématiques très larges, que ce soit celle des souvenirs à l'automne ou celle du vivant là en ce moment, que des ultra spécialistes ou n'importe qui puisse amener sa pierre. L'idée, c'est à notre échelle, petite échelle, de tenter de créer quelque chose de l'ordre du commun entre des gens d'horizons très divers, du milieu de la culture, mais pas seulement, puisque ces thématiques nous permettent aussi d'aller chercher des professionnels du social, de la santé, de l'urbanisme. Le bilan est plutôt bon. Si on fait un petit pas de côté, qu'on regarde simplement la fréquentation des spectacles, c'est vrai qu'on est enfin sortie de cette période de la pandémie et du Covid, et qu'on retrouve seulement depuis début 23, donc c'est récent, hein, seulement depuis 6 semaines, nos fréquentations de 2019, donc on a vraiment le sentiment d'être sortis de cette période compliquée, sensible, voire même pénible de 3 ans qu'on a traversée.
Vincent Rochelecqa, les 2 et 3 mars, vous présenterez les spectacles à venir à la scène nationale. Cette deuxième partie de saison sera autour des thématiques matière et amour. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Du coup, par exemple, sur les matières poétiques et sonores, il y avait l'envie très forte de travailler avec l'Arbre Canapas, qui est un collectif de musiciens local qui a cette capacité à faire musique avec n'importe quel objet. Ils se nomment d'ailleurs sur les lutheries eux-mêmes, sur les lutheries sauvages et numériques. En gros, ils ont une capacité à transformer n'importe quel équipement numérique ou n'importe quel objet de récup en instrument à vent ou à corde. Et c'est vrai que ça m'a invité, puisque j'avais très envie de les inviter comme artistes complices de cette thématique. Ça m'a donné l'idée que potentiellement, on pouvait aussi renvoyer un message à n'importe qui que toute matière première, de la boue, de la glaise, du bois, peut être façonnée, faire raconter une histoire, devenir de l'art. Et donc, c'est un peu ça qu'on va tenter de raconter sur la thématique matière avec beaucoup d'artistes qui transforment des éléments des matières premières. Quant à la question de l'amour, c'est vraiment, je trouve, cette question des diversités amoureuses, du non-binaire, du transgenre, ou en tout cas d'une évolution de nos liens d'amour et d'affection et d'amitié qui, je trouve, pénètrent les questionnements de notre époque. Et là, pour le coup, c'était pas très compliqué. Il y en a plein les plateaux des artistes qui, à un moment, nous invitent à revisiter ces questions-là.
Alors, qu'est-ce qui nous attend à la scène nationale de Bourg-en-Bresse jusqu'en décembre prochain ?
Qu'est-ce qui nous attend sur ces 8 mois à venir ? On va retrouver un certain nombre de partenariats historiques, que ce soit avec le monastère, que ce soit avec l'école de cirque, avec des spectacles dans les quartiers, des temps forts en extérieur, notamment au beau jour. Et puis, il y aura une série de noms plus connus, d'artistes locaux suivis régulièrement. Donc, je ne sais pas lesquels je peux ou je dois citer.
C'est une question que je sais que vous redoutez, mais peut-être un ou deux spectacles que vous aimeriez mettre en avant ?
On a de grands chanteurs, acteurs, actrices qui vont venir. On a notamment 2 textes coup de poing par des actrices fortes, que ce soit un texte de Sylvie Testu qui viendra fin avril et un autre de Ludivine Sagnier qui viendra début octobre. L'une sur les violences faites aux femmes et l'autre sur un fait divers qui s'est joué dans le coin. Donc on est ravis d'avoir ces 2 actrices vraiment reconnues du cinéma et qui en ce moment font un tabac sur les planches du théâtre. On a le retour de Dominica, qui est vraiment un chanteur qu'on apprécie. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'on a Thomas Fersen qui arrive aussi là très prochainement, dans 3 semaines. Et puis, allez, si je peux me permettre quelques autres noms, je pense notamment aux 2 grands chapiteaux qui viendront en mai et fin septembre. En mai, on a un cirque équestre qui nous vient du Grand Est, de Mulhouse, qui était venu il y a 5 ans, et on fait ça dans le cadre de Brin de Cirque. Et la compagnie Equinote viendra présenter un grand et beau cirque équestre avec 7 artistes fin mai. Et on a un cirque suédois qui viendra ouvrir nous aider à réouvrir la saison en septembre. Et puis enfin terminer avec peut-être la clôture de cette année civile au mois de décembre. On n'est pas peu fiers de voir arriver l'équipe de Via 4 Leon, qui est un chorégraphe d'Afrique du Sud, qu'on a coordonné entre plusieurs scènes nationales. Et ce sera une grande et belle pièce de danse mi-décembre.
Eh ben Vincent Rochelecqa, merci.
Merci Audrey.
Vous êtes le directeur de la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Et donc, pour connaître toute la programmation de la scène nationale de Bourg-en-Bresse, le mieux, c'est de participer aux soirées de présentation qui sont prévues donc les 2 et 3 mars à 18h et à 20h30. Alors, l'entrée est gratuite, mais la réservation est conseillée. Et toutes les informations pour ces soirées et sur la scène nationale de Bourg, c'est sur www.theatre-bourg.fr.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 120 ans.
En reportage avec Radio B.
Inès, vous êtes partie à la découverte de la montagne magique à Hauteville.
Perché à quelques minutes du domaine nordique de la Praille, ce grand bâtiment était un ancien sanatorium, un établissement médical qui traitait des malades, de la tuberculose notamment. Aujourd'hui, il abrite les ateliers d'une petite dizaine d'artistes. J'ai rencontré 3 d'entre eux.
Alors, Sophie Pouille, enchantée. Donc je suis l'une des cofondatrices de Montagne Magique, un bâtiment qu'on a acheté donc en 2018 à 6. Dans les 6 personnes, il y a 4 artistes d'art contemporain, donc moi, Sophie Pouille, Karim Kall, Jean-Xavier Renaud et Gaëlle Fauré. Et il y a également Jean-Marc Salomon de la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon, Ludwig de Bellevallée qui a une brasserie de bière bio et locale. Et puis depuis maintenant 2 ans, il y a 3 nouvelles personnes qui ont rejoint le projet, donc Julien Camp qui est à mes côtés aussi, qui est illustrateur de bande dessinée aéronautique, Corinne Boyer qui est émailleuse et Marie-Aveline qui est couturière.
Expliquez-nous visuellement ce lieu, à quoi il ressemble.
Alors visuellement, on pourrait dire qu'on est entre Shining et une cabine de plage, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout en haut du versant qui donne sur le sud du plateau d'Hauteville. Et donc le bâtiment est en forme de T face à l'ouverture et face au paysage. Et justement, comme c'était un ancien sanatorium, donc sanatorium école, c'est pour ça qu'il était aussi, qu'il avait une fonction de solarium et qu'il y a des très grands balcons. Puisqu'à l'époque, on utilisait justement le soleil et l'air pur d'Hauteville pour que les patients et ici donc les gens qui finissaient de se soigner se positionnent sur les balcons et profitent et de l'air et du soleil.
Et comment vous est venue cette idée ?
Alors, la personne à l'origine du projet, c'est Gaëlle Fauré, l'une des artistes qui était déjà tombée amoureuse de l'histoire sanatoriale. Et il se trouve que sur le plateau d'Hauteville, il y en avait plus d'une dizaine. Donc, du coup, c'est une histoire forte. Et elle avait l'envie de créer un lieu où on puisse créer des lieux de travail. Parce qu'ici, c'est vraiment un endroit qui n'est pas ouvert au public de façon régulière. C'est vraiment un lieu où chacun a acheté un endroit dans lequel il vient travailler comme un menuisier à son lieu artisanal et son établi pour venir fabriquer des choses.
Donc ça a l'air vraiment immense. Est-ce que toutes les salles sont occupées ?
Alors oui, si je me mets face au bâtiment, si on regarde tout en haut, il y a donc l'atelier de Julien Camp qui est illustrateur, le mien qui est en bout, et dans l'aile qui est un tout petit peu plus loin, il y aura dans le futur une résidence d'artistes, sûrement principalement Chine et États-Unis, pilotée par la Fondation Salomon. Au deuxième étage, Jean-Xavier Renaud a un immense atelier qui donne aussi entre le 2 et le 3e, puisqu'il a créé une immense fosse pour faire des très grandes toiles. Ici, vous avez l'atelier de Karim Kall qui est photographe. Au premier étage, c'est tout l'espace Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon. Donc 1400 mètres carrés qui sont quasiment entièrement occupés, bien qu'on fabrique les choses petit à petit puisque l'espace de la Fondation n'est pas encore terminé. Et en bas, j'ai oublié 2 lieux qui sont des lieux d'espace collectif, entre un espace dans lequel on peut venir manger et se regrouper et un espace qui est utilisé par tout le monde comme un espace de démonstration, par exemple. Quand on a fini un vêtement, on peut venir et le photographier ou on peut faire un mini marché ouverture associative de produits locaux. Enfin, le but, c'était de créer un espace collectif dont chacun puisse s'emparer.
Ce terme de montagne magique, pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors, montagne magique, en fait, c'est une œuvre littéraire de Thomas Mann qui parle en fait et qui se déroule dans un sanatorium du côté de Davos. Donc c'est beaucoup plus littéraire que ce qu'on pourrait imaginer effectivement quand on entend le nom qui pourrait sonner plus folklorique.
Okay. On rentre dedans alors ?
Oui.
Allez, on commence par la tête de Sophie.
Bienvenue.
Là, on est dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors oui, moi j'ai la chance d'avoir un atelier au 3e étage, donc je l'appelle souvent le phare parce qu'il y a des fenêtres quasiment à 360. Et donc c'est un atelier pour lequel, d'ailleurs j'en profite pour remercier la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, parce qu'elle participe à aider à l'installation des ateliers. Et donc moi j'ai réalisé tous mes meubles, je les ai dessinés et fabriqués parce que j'avais envie d'avoir quand même un lieu qui soit assez épuré mais dans lequel je puisse stocker beaucoup de choses. Donc par exemple, j'ai un lit liseuse qui fait bibliothèque. Je peux ranger mes œuvres dans un grand bureau que j'ai fabriqué pour ma pratique du dessin. J'ai un banc que je peux amener et créer une estrade si je veux diffuser un film. Et puis j'ai une boîte qui me permet de stocker des grandes toiles.
Et donc, en quoi consiste votre travail ? Votre travail artistique ?
Alors moi, je dessinais beaucoup et j'avais une pratique avant de la peinture acrylique. Et j'ai développé en fait un travail qui est à partir de grisaille. Donc c'est la même technique que pour les vitraux. Si vous vous approchez, en fait, vous pourrez voir que ça donne l'impression que c'est pierreux. Parce qu'en fait, c'est le cas, c'est comme une espèce de poudre que je viens retravailler, que je viens sculpter au travers du dessin. Et de l'autre côté, en fait, on sentirait qu'elle est effectivement minérale, parce qu'ensuite, c'est cuit et le dessin rentre à l'intérieur du verre.
Bonjour, Julien Camp, je suis donc le dessinateur de bande dessinée spécialisé un peu en aviation et illustrateur aussi dans le domaine de l'aéronautique, et je suis tout en haut de Montagne Magique. Bienvenue dans mon atelier. Je travaille sur un projet qui s'appelle L'Aigle à deux têtes, qui est une histoire un petit peu fantastique, Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, je suis en train de terminer actuellement et bientôt j'aurai d'autres projets. Et il se trouve qu'ici, c'était l'ancienne bibliothèque. Ça s'invente pas, voilà. C'était l'ancienne bibliothèque de l'école. Et donc, pareil, j'ai refait les travaux, j'ai tout aménagé. Et voilà, j'ai ma table à dessin, bientôt mon ordinateur, et je pourrais faire tout. Donc, je viens de temps en temps dessiner là sur la planche à dessin quand j'ai un moment. Et... Moi, la raison pour laquelle je me suis installé ici, bah, c'est un peu les mêmes que les autres, c'est-à-dire participer à un projet un peu collectif comme ça. Et puis surtout, on habitait à Lyon jusqu'à il y a 3-4 ans, et je travaillais dans mon salon, petit salon, et là, j'ai enfin la possibilité d'avoir un espace grand où je peux stocker mes livres, mes planches, tout et tout. Donc voilà, et puis en plus, comme je travaillais essentiellement... tout ce qui vole dans le ciel et tout. Ici, j'ai un parfait exemple d'inspiration au quotidien, donc c'est top. Voilà.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors moi, je suis Corinne Boyer et je suis émailleur d'art sur métaux.
Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter le lieu où on est ? Qu'est-ce que vous faites ici ?
Alors ici, c'est mon espace atelier émailleur. En ce moment, je fabrique pas mal de bijoux. Et mon projet, c'est d'essayer de développer davantage cette activité et donc de trouver des lieux de vente. Je travaille essentiellement le cuivre, mais aussi l'acier. Et en ce moment, je commence un peu à travailler l'argent. Je fabrique beaucoup de bijoux, mais aussi des tableaux. Et voilà, j'essaie de développer plusieurs niveaux de créativité.
Pourquoi vous avez rejoint ce lieu ?
Bah, j'ai rejoint ce lieu parce que déjà, je connaissais plusieurs des protagonistes de cette initiative. Et ensuite, moi, j'étais en recherche d'ateliers parce que je n'avais pas d'atelier depuis plusieurs années et que c'était assez difficile localement de trouver un espace. J'ai des amis qui m'avaient un peu prêté un petit espace chez eux, mais ce n'était pas si évident. J'ai prospecté et c'était très dur de trouver. Et cette initiative tombait vraiment parfaitement à point.
Et en quoi ça vous aide d'être ici ? Peut-être le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui soient aussi artistes ?
Bah, c'est sûr que c'est intéressant et ça, c'est motivant. Après, en ce qui concerne ma créativité, c'était déjà là avant. Donc, voilà. Mais bon, c'est plus le fait de pouvoir mener un projet à plusieurs qui est un autre aspect vraiment intéressant, quoi.
La Montagne Magique repose sur un système de copropriété où chaque artiste est propriétaire de son atelier et il partage des espaces en commun avec les autres. Ce n'est pas un endroit fait pour accueillir du public, mais les portes s'ouvrent de temps en temps, et notamment pour les journées du patrimoine. Alors si vous voulez avoir l'occasion de venir découvrir ce lieu, vous pouvez suivre son actualité sur le Facebook Montagne Magique ou sur le site internet montagnemagique.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM. En attendant, belle semaine sur nos ondes.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si... on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.